bonjour.
Bonjour.
J'ai aussi Nadia Lafrenière qui étudie en sciences mathématiques aussi en deuxième année, qui est élue de l'association étudiante du secteur des sciences de l'UQAM, qui est contre les frais de la hausse de frais.
Exactement, bonjour.
Et nous avons aussi le professeur André Lamoureux du département de sciences politiques de l'UQAM. Ce politologue s'intéresse à l'analyse de l'évolution des mouvements sociaux et politiques comme des mouvements étudiants.
Et tout à fait, bonjour.
Donc, d'abord, je vais vous poser la question à tous les deux. Qu'est-ce que ça change d'être un étudiant en sciences dans le débat actuel?
Moi, je pense que les étudiants en sciences ont souvent la possibilité de regarder ce qui est mesurable, les informations directes. Puis, avant d'avoir une position pour ou contre la hausse, moi, j'ai une position d'encourager les gens à vérifier eux-mêmes l'information qui est disponible, parce que l'information est disponible vraiment partout. C'est un sujet qui intéresse les scientifiques un peu partout dans le monde, l'effet du financement sur l'école, et d'avoir une information qui ne vient pas juste des comités étudiants et, entre guillemets, de la propagande bien organisée pour faire passer l'opinion publique, ça peut mener à d'autres points de vue intéressants.
OK. Et le fait que vous soyez favorable, est-ce que c'est quelque chose de nourri justement par cette quête d'information? Est-ce que c'est parce que vous estimez qu'il faut se positionner différemment? Pouvez-vous expliquer?
En fait, c'est les deux. D'une part, j'ai essayé de trouver le plus d'informations possible sur la hausse, mais il y a aussi des fondements philosophiques sur lesquels la question de la hausse ou non se base. Et à partir de ces fondements-là, on peut interpréter les données vraiment d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est les deux.
Vous, Nadia, vous êtes contre et vous êtes aussi en sciences. Est-ce que ça change quelque chose d'être en sciences?
Oui, en fait, moi, je vois vraiment la hausse des frais de scolarité comme s'inscrivant dans un contexte global au sein de l'université qui est en transformation constante. Puis en ce sens-là, je pense que les domaines de sciences sont particulièrement affectés par cette transformation-là. Puis bon, si je peux donner quelques exemples, que ce soit par, il y a beaucoup plus de fonds pour la recherche qui est disponible, mais c'est la recherche qui est souvent commercialisable, c'est beaucoup moins la recherche appliquée. De la même façon que, si on parle de plus au niveau de l'enseignement, les sciences pures sont effectivement beaucoup plus touchées par une marchandisation de l'université. C'est-à-dire que les premiers programmes coupés, c'est les programmes de sciences fondamentales. Donc, on parle ici de physique, de chimie, de mathématiques, de biologie. Puis bon, ça, c'est quelque chose qui est observable. Beaucoup plus que les programmes, par exemple, qui seraient en gestion ou en sciences appliquées. En ce sens-là, c'est sûr que ça a un impact sur justement nos études au quotidien. Et aussi, la hausse des frais de scolarité a un impact sur le choix des programmes. Donc, dans le fond, si les frais de scolarité sont plus élevés, ça va faire que les étudiants, quand va venir le temps de choisir leur programme, vont davantage aller dans un programme qui va être rentable, donc qui va mener rapidement à un salaire plus élevé, ce qui touche justement les sciences plus fondamentales au profit des sciences appliquées, du droit ou de la gestion.
Oui, en fait, j'aimerais préciser, comme ma collègue a parlé de programmes coupés, il n'y a pas vraiment de programme directement coupé par l'intermédiaire de la hausse ou d'une autre forme. Ça peut être tranquillement les grandes directions que le Canada se donne en priorité de recherche, mais ça n'a pas immédiatement rapport avec la hausse des frais de scolarité. Puis, d'une autre part, moi, on va peut-être revenir sur le sujet, mais je vois vraiment une certaine un gradient entre la recherche fondamentale pure et simple et la recherche de recherche et développement industriel, de développement de produits. Entre les deux, je vois pas nécessairement un mur, mais un gradient. Et en fait, la recherche R&D qui se fait en industrie, ça peut être un horizon de 2 à 5 ans, alors que la recherche en génie, comme dans le bout que je fais, l'horizon pour que ça devienne quelque chose d'utile, c'est peut-être de 5 à 10 ans. Et la recherche fondamentale, c'est un horizon un peu plus élevé, peut-être de 10 à 20 ans et plus. Mais je vois vraiment ça comme une progression et chaque université et chaque domaine ont leur place. Et c'est un peu bête de dire « Ah, on méprise un côté vs l'autre. »
D'accord. Professeur Lamoureux, oui? Comment vous caractériseriez cette grève-là de 2012?
Bon, c'est une grève qui survient
en fait, dans la foulée de d'autres grèves, parce qu'il y en a eu d'autres conflits dans l'histoire depuis les années 70 au Québec. Il y en a eu une en 2005, tout le monde le sait, une immense grève, la plus importante de l'histoire du Québec. Et cette fois-ci, ben, en fait, il exprime un mouvement d'une masse d'étudiants. On le voit aujourd'hui, là, on est rendu à 140 000, 150 000 étudiants possiblement aujourd'hui, qui sont en grève et qui s'opposent au fait de hausser les frais de scolarité, parce qu'ils voient cette hausse comme une possible barrière à, non seulement à l'accessibilité, moi je dirais, mais c'est surtout la question, à mon sens, à moi, le problème qui est posé par la hausse des frais de scolarité, c'est l'effet que cela peut avoir sur les taux de diplomation, possiblement au Québec, au point de vue universitaire. Mon évaluation, c'est que celle-ci, elle a commencé plus en rang dispersé, puis elle suit actuellement un cheminement en cascade qui s'étend, s'échelonne pas mal sur le temps. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les gens qui sont sortis en grève au début vont tenir le coup et vont continuer dans le processus de contestation? Parce que lorsque ça fait 2 semaines qu'on est en grève, 3 semaines, à la limite, ça peut s'organiser. Et là, maintenant, ceux qui sont sortis en grève, ça fait déjà 4 semaines de cours perdus, parfois 5. Et donc là, ça devient peut-être plus problématique avec le temps. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que tout le monde va tenir le coup, suivre le processus, le mouvement généralisé, et ou bien s'il y a des pans du mouvement étudiant qui vont plutôt céder ou rentrer au cours en classe. Donc, c'est le questionnement qu'on peut se poser. Mais quand même, le mouvement est quand même d'ampleur. 150 000 étudiants, c'est quand même important.
Puis, j'aimerais peut-être juste nuancer les chiffres. 150 000 étudiants, c'est le nombre d'étudiants appartenant à des groupements étudiants, des comités étudiants, lesquels ont décidé d'aller en grève. Et ce n'est pas nécessairement le nombre d'étudiants qui ont mis leur voix pour dire « je suis contre ce gouvernement, je suis contre cette décision » ou « je participe à ça ». Et en fait, on voit que, par exemple, dans la région de Québec, il y a des, pour les cégeps et puis pour certaines universités aussi, il y a des taux de participation très grands, de l'ordre de 85%, parce qu'ils ont décidé de faire des votes sur une durée d'une semaine par Internet, des choses comme ça. Et on voit que dans ces places avec des taux de participation très grands, la grève est en majorité rejetée, alors qu'à d'autres places, comme à Montréal, où le taux de participation est beaucoup plus bas, on parle d'un taux, dans certains cas, de 10, même de 4%. C'est de ces cas-là que, oui, 60% des étudiants, par exemple à Concordia, ont voté pour la grève, mais c'était 10 000 sur 30 000. Fait que le taux de participation est anémique à ce moment-là. Donc, c'est difficile à juger, de dire, oui, l'effet de masse est important, il y a 150 000 étudiants, mais c'est pas 150 000 étudiants qui se sont dit « je suis contre la hausse de frais de scolarité par le vote ».
Oui, mais je voudrais juste répondre là-dessus. Mais c'est les règles de la démocratie. Dans tout mouvement, même dans le mouvement syndical, même pour ce qui est de l'appartenance à un syndicat, lorsqu'il y a des votes d'accréditation, c'est la majorité qui l'emporte, c'est la règle de la démocratie. Donc, on peut toujours dire, bon, le taux de participation est différencié d'un endroit à l'autre, et puis que les gens qui ont voté contre la grève ne font pas partie de ce 150 000, mais il reste que ce sont les règles de la démocratie.
J'ajouterais aussi à ça, dans le fond, que ben, par rapport au taux de participation, un taux de participation élevé n'implique pas nécessairement qu'un vote est rejeté. Puis à ce sens-là, ben, tu sais, il y a plusieurs exemples qui sont assez éloquents. Là, au cégep de Saint-Jérôme, où il y a environ 4 300 étudiantes et étudiants inscrits, on parle quand même de 4 000 personnes qui se sont présentées pour voter en Assemblée générale. Ou encore, je pourrais parler aussi, donner l'exemple du cégep Marie-Victorin, qui lui aussi est à Montréal. Donc, quand on parle de faible taux de participation, il y avait 60 % du cégep qui était à l'Assemblée générale de déclenchement, et ça passait à 80 %. Donc, je pense qu'un taux de participation élevé n'implique pas nécessairement une défaite au vote, bien au contraire. Souvent, par contre, ce qui peut influencer, c'est un vote en référendum versus un vote en Assemblée générale. Ce qui influence ça, c'est que le vote en Assemblée générale est précédé d'un débat. Alors qu'un vote en référendum, ben, ça n'implique pas nécessairement d'être informé de, ben, d'une part, qu'est-ce que la hausse des frais de scolarité, mais aussi d'autre part, qu'est-ce que la grève, c'est quoi que ça implique, c'est quoi les impacts sur la session. Dans le fond, les impacts académiques, c'est quelque chose qui peut quand même assez faire peur quand on ne connaît pas c'est quoi une grève. Puis je pense que c'est important l'information, puis qu'on voit que les places où il y a vraiment eu beaucoup d'informations, où il y a eu un débat en Assemblée générale, c'est souvent les places où ça a le mieux passé.
On va surtout ici parler des enjeux. Ce que j'aurais voulu voir un petit peu avec avec le professeur Lamoureux, c'est les leçons qu'on doit tirer de 2005, parce qu'en 2005, on parlait de 250 000 étudiants dans les rues. On ne parlait pas simplement de vote ou de participation, etc. Là, on parlait vraiment d'une mobilisation totale, presque, des étudiants. Là, est-ce que ça ressemble beaucoup?
Pas tout à fait, mais possiblement, mais c'est l'espace-temps là, qui va compter aussi. Mais là, il y a quand même eu des votes importants, l'Université Concordia là, qui est entrée en grève, donc ça, c'était un fait... C'est un fait historique, là, qu'une université anglophone se lance dans le mouvement. Je pense qu'il y a 11 000 étudiants aussi qui votent aujourd'hui. Donc, il y a quand même une croissance encore. C'est ça qui est important. Alors, si on était en situation de décroissance, où il y a des pantiers qui quitteraient le mouvement, là, on pourrait s'interroger énormément. Mais pour le moment, le mouvement de croissance est toujours là. C'est ça qui, je pense, qui est important. Et lorsque ce mouvement est massif, généralement, ça a eu un effet sur le gouvernement. Ce qui m'inquiète actuellement, c'est que le gouvernement Charest ne dit rien personnellement. Il ne dit rien, ne négocie pas, ne parle pas. Et ça, je trouve ça malsain du point de vue démocratique, là, sur le point de vue politique. Là. Je ne parle pas des taux de fréquentation universitaire ou quoi que ce soit, ou des taux de diplomation, mais le fait qu'il y ait comme un silence, cela me fait penser au le fait que le gouvernement, sa stratégie actuellement, le gouvernement Charest, c'est de compter sur l'essoufflement des étudiants, point à la ligne. Ça m'inquiète parce que pour la santé du débat, la santé de la vie démocratique, je crois qu'il devrait y avoir une négociation. Donc, c'est ça qui m'inquiète un peu.
Quand on parle de participation, j'aimerais savoir ce que vous pensez des différents carrés. Donc, carré rouge, carré vert, mais aussi carré bleu, carré jaune. On a eu différents carrés qui ont apparu. Pour l'ensemble de la population, ce n'est pas très clair. Donc, j'aurais voulu qu'on m'explique un petit peu ce que ce sont, la signification de ces carrés-là.
OK, ben, je vais prendre la question. Le carré rouge, essentiellement, il s'oppose à la hausse et il est pour la grève. Le carré vert... et pour la hausse contre la grève. Le carré bleu est contre la hausse, mais contre la grève aussi. Le carré jaune, il est neutre. Il y a d'autres personnes qui ont pris le jaune pour avoir une position satirique pour la hausse et pour la grève. C'est un peu compliqué.
Ça, c'est le carré jaune et le carré bleu, c'est pour afficher une position mitigée. Je comprends toujours mal comment on peut vouloir afficher le fait de ne pas avoir de position. Pour ma part, ça fait quand même 5 ans que je porte le carré rouge. Puis le carré rouge, en fait, au-delà de juste contre la hausse des frais de scolarité ou pour la gratuité scolaire, c'est un symbole qui est dans le mouvement étudiant depuis quand même 7 ans, donc qui a fait son apparition dans le mouvement étudiant lors de la grève de 2005 qui portait sur les prêts et bourses. Mais aussi, il venait avant du milieu communautaire, le symbole « on est carrément dans le rouge ». Dans le fond, ça venait avant du milieu, du milieu communautaire dans les luttes, entre autres pour le logement, qui est apparu dans le fond aux alentours de 2003, puis à partir de 2005, c'est vraiment devenu l'icône du mouvement étudiant.
Donc là, moi, ce que je voudrais voir un petit peu, on va plonger dans les enjeux. Je voudrais savoir un petit peu pourquoi vous vous mobilisez pour et contre, comme étudiant en sciences, en pensant aussi que les étudiants en sciences souvent ont des longues études, des études qui sont souvent plus chères aussi.
Ben moi, ma position est en environ 2 points. Pour commencer, je suis contre toute l'idée d'urgence que le mouvement étudiant, principaux syndicaux, etc., vient mettre. L'idée que 7000 étudiants vont être à la porte des études, qu'ils ne vont pas avoir accès, ça c'est, à mon avis, c'est une idée... puis je vais probablement pouvoir discuter de ça plus tard, mais c'est une idée malsaine. Tout le climat d'urgence empêche de débattre le fond. Puis, ma deuxième position, c'est qu'une fois qu'on peut enlever le climat d'urgence, la hausse des frais de scolarité, en fait, non seulement je prône qu'elle ne s'oppose pas à l'accessibilité, mais je prône aussi que c'est une bonne manière d'avoir une université accessible et de meilleure qualité. Et non seulement c'est une bonne manière, mais c'est peut-être la meilleure manière d'atteindre le but d'une université accessible et de qualité. Et oui, comme plusieurs autres, je vais payer pour l'augmentation, mais je pense que c'est quelque chose qui, en bout de ligne, peut en vouloir la peine.
Okay. Ben moi, je ne cacherai pas du tout que je suis pour la gratuité scolaire. En fait, je suis pour une université qui est gratuite, publique et de qualité, et je pense que c'est tout à fait compatible. Dans le fond, quand je parle d'une université publique, c'est une université qui, de par son financement, est entièrement publique, donc qui vient de l'État, des impôts, des taxes. Et aussi, je parle qu'il sert le public. Donc, qu'il n'y ait pas de laboratoire qui servent essentiellement à vendre des brevets à des entreprises privées, beaucoup, mais aussi qui n'aura pas, qui ne louera pas de locaux à des entreprises privées pour ensuite décrier le manque d'espace ou des choses comme ça. Mais aussi, sinon, quand je pense que c'est compatible, gratuit, public et de qualité, je pense que la qualité non plus sera pas touchée par la hausse des frais de scolarité, puis même on va assister à l'effet inverse. Ce que je veux dire par là, c'est que la qualité, non, si l'université, ce qu'on assiste après chacune des hausses de frais de scolarité, c'est un désengagement de l'État dans le financement des universités. Et en ce sens-là, il n'y aura pas plus d'argent dans les universités, il n'y aura pas plus d'argent pour embaucher des profs, il n'y aura pas du matériel de meilleure qualité. Moi, je pense que c'est juste en ayant un financement qui est entièrement public qu'on va pouvoir avoir la qualité de l'université. Sinon, c'est ça. Puis aussi, il y a une raison que je pense qui est essentielle de s'opposer, pour laquelle je pense que c'est essentiel de s'opposer à la hausse des frais de scolarité en sciences, c'est qu'après une hausse des frais de scolarité, après l'indexation, c'est quoi la prochaine étape? Ben, ce qu'on a vu, notamment dans le cas des étudiantes et des étudiants hors Québec, c'est la différenciation des frais de scolarité par programme. Puis cette différenciation-là est appliquée pour les étudiants étrangers et les étudiants étrangères dans quelques domaines, soit les sciences appliquées, les mathématiques, l'informatique. On parle aussi de génie et de droit et d'administration. Donc, c'est essentiellement les programmes de sciences qui sont touchés par ça. Puis nous, évidemment, on a toutes les raisons de s'opposer à une différenciation des frais de scolarité, mais aussi à une hausse des frais de scolarité.
Rémi Quirion, le scientifique en chef, a dit en septembre que l'université devait être plus flexible. Peut-être être flexible dans le sens que chaque étudiant va pouvoir prendre un cours dans un département, un autre cours dans un autre département, pouvoir se faire une formation plus personnalisée, ce qui fait que le financement ne serait pas par département. Le financement risque d'être un petit peu plus chapeauté par l'université.
Ça me fait penser à la discussion qu'on avait sur il y a quelques années sur les bons d'études, là, où choisir son école. Là. Mais en fait, l'université est fondée essentiellement sur la spécialisation. Je vois mal comment un modèle comme ça peut être géré au point de vue pédagogique, mais aussi au point de vue du financement, la vie des départements, la vie des programmes aussi, parce que le but de l'université, c'est de former des spécialistes. Alors, donc, le magasinage comme ça, à gauche et à droite, là, je ne sais pas dans quelle direction qu'on s'en va, là, mais ça me paraît difficilement concevable. En vérité, la hausse des frais scolaires va entraîner l'objectif du gouvernement, c'est une hausse de la contribution des étudiants, mais ce qui est dommageable dans toute cette situation-là, depuis les années 80, en fait, depuis que Québec coupe constamment dans l'éducation et la santé, c'est que la part de l'État, et là, je rejoins le point de vue de l'étudiante ici, qui est contre la hausse, c'est que la part de l'investissement de l'État dans la formation universitaire, comme dans les collèges aussi, a diminué. Donc, même si on avait la hausse escomptée du gouvernement, on n'arriverait pas en 2015 avec une portion de financement de l'État qui serait aussi correspondante à la hausse. Au contraire, dans la projection du gouvernement en place, c'est que même cette portion de financement de l'État serait même encore plus basse qu'est-ce qu'elle ne l'est maintenant.
Oui, mais par rapport à ça, ce que j'ajouterais peut-être, c'est que le baccalauréat, il est apparu il y a quelques années, le baccalauréat par cumul de certificats. Ce qui fait, dans le fond, que pendant 3 ans, une étudiante ou un étudiant inscrit à ce baccalauréat-là fait des cours de première année. Donc, juste des cours de première année pendant 3 ans, ça fait quand même une baisse du niveau d'instruction. Dans le fond, les cours de première année, c'est reconnu qu'ils sont beaucoup plus faciles que les cours avancés. Et ensuite, ces gens-là peuvent quand même aller à la maîtrise. Là où c'est problématique, dans le fond, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement la même formation que quelqu'un qui peut avoir fait un bac dans un programme particulier. Puis l'étape après ça, c'est souvent aussi l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est quoi? En gros, c'est si on paye pour s'inscrire à un programme, c'est qu'on s'assure d'avoir notre diplôme en payant plus. Ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Donc, les gens, les étudiantes, les étudiants travaillent pour financer leurs études, travaillent plus, mais en revanche, elles exigent de, comme elles paient pour leurs frais de scolarité, elles s'attendent à avoir leur diplôme, peu importe, dans le fond, la quantité de travail qui est mis. Puis ça, c'est quand même assez problématique parce que au point de vue académique, ça baisse en fond la qualité de l'université. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu ironique de parler d'une assurance qualité. Là. Qualité au sens où on paye, donc on a un papier après, mais pas au sens où l'université remplit vraiment sa vocation académique et pédagogique.
Moi, j'aimerais juste revenir sur les propos de la part du gouvernement dans l'éducation qui ont été émis des deux côtés. D'une part, la hausse totale se chiffre à 850 millions, dont une petite partie, le 320 millions, qui est demandé aux étudiants. Donc, même si la participation du gouvernement, effectivement, va passer de 54 à 51%, mais dans l'ensemble, c'est une hausse du montant total de subventions aux universités qui est faite.
Alors, est-ce qu'elle doit être rentable? Sinon, comment on la finance?
Oui, moi, en tout cas, je trouve que c'est très, très dangereux de parler de rentabilité quand on parle de l'éducation. Là. Si on veut parler vraiment du savoir et non d'une éducation qui sert essentiellement à un job très appliqué, on peut pas parler de rentabilité. C'est quelque chose qui se doit d'être public. Donc, on est peut-être au niveau de la rentabilité. Là, de plus en plus, il y a des subventions qui viennent des universités, mais qui sont pas nécessairement affectées dans le budget de fonctionnement. Là, beaucoup dans le budget d'immobilisation ou encore de recherche et développement. Puis aussi, il y a une grosse partie du financement universitaire qui, étrangement, vient du ministère du développement économique, de l'innovation et des exportations. Puis ça, dans le fond, c'est des fonds qui sont dirigés spécifiquement dans la recherche qui sert aux entreprises. Si cet argent-là, à la place de venir du ministère du développement économique, venait du ministère de l'Éducation, pourrait également être affecté à l'enseignement, à la recherche fondamentale. L'idée de rentabilité, dans ce cas-là, on va vraiment parler de savoir et non de faut qu'on paye pour avoir des innovations et de la main-d'œuvre qualifiée. Là, c'est pas juste ça, l'université. Sinon, pour financer l'université, il y a diverses alternatives. Le Plan Nord, on peut parler du Plan Nord. Je ne dis pas que je suis en faveur du Plan Nord vraiment, mais on peut une hausse des redevances. On est en train de brader nos ressources naturelles, que ce soit par le Plan Nord ou par l'exploitation des gaz de schiste ou par plein de choses. On est en train de donner nos ressources naturelles. On pourrait aller chercher plus d'argent là. On pourrait rajouter des paliers d'imposition, dans le fond, qui ferait que la grande majorité de la population paierait moins d'impôts, mais seulement les plus riches en paieraient un peu plus, et ça permettrait d'accroître quand même les revenus de l'État. On pourrait augmenter aussi on pourrait en fait arrêter les contrats secrets d'Hydro-Québec qui donnent l'électricité moins chère aux entreprises qui en consomment beaucoup plutôt que aux particuliers. Donc il y a plein de façons d'aller chercher l'argent. L'argent, il y en a.
La question, à mon avis, est-ce que l'université doit être rentable? C'est peut-être la mauvaise question, ou c'est une question un peu trop large, parce que la question, ça serait rentable pour qui? Qu'est-ce qu'on observe, c'est que l'université est principalement rentable pour ses étudiants, et je ne parle pas uniquement du niveau économique, je parle l'ensemble du savoir et des acquis de l'étudiant. Et puis, c'est pas mal par l'étudiant qui est porteur de tous les avantages de l'université qu'on peut dire que ça vaut la peine l'éducation. Effectivement, si on regarde le plan du gouvernement, il y a 110 millions de plus que l'université devrait générer par ses propres moyens ou bien en ayant des meilleurs brevets pour ses inventions ou bien en ayant d'autres méthodes. Il y a aussi 45 millions de dons supplémentaires que le gouvernement aimerait que l'université aille chercher.
Est-ce que l'université en fait pas un peu trop? Entre la recherche, entre les cours donnés aux étudiants, entre la nécessité justement de publier de certains professeurs tant de papiers par année. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une démultiplication et on oublie le but premier?
Bon, disons que l'université a une multitude de responsabilités. Il y a des chaires de recherche qui sont financées par divers fonds. En particulier au Québec, les chaires de recherche sont largement financées par Ottawa. Dans les universités. Donc, évidemment, il y a des sources de fonds qui proviennent de différents horizons. Mais c'est pas une raison pour les remettre en cause, à mon avis. C'est vraiment une question d'investissement de l'État. Moi, je vais vous dire mon avis là-dessus. Là. La santé, l'éducation, ça ne peut pas être rentable. Si on prenait le même discours sur la santé, ça serait un non-sens. La santé, pour un État, l'éducation, c'est un investissement. C'est un investissement en termes de développement, évidemment, des cerveaux, de la recherche, le développement, de former des spécialistes qui, eux, une fois qu'ils vont être sur le marché du travail, lorsqu'ils vont partir de leurs compétences et apporter à leur tour à la société, vont contribuer à la rentabilité de cette société québécoise en ce qui nous concerne. Donc, il ne faut pas toujours regarder les choses du côté de la rentabilité. Je vais comparer le problème des frais de scolarité à la question des services de garde dans la petite enfance. Le Québec a choisi comme société de développer des services de garde à la petite enfance. Dans les années 70, les syndicats demandaient un réseau public et gratuit de services de garde au Québec, intégré au réseau de santé, des services, des CLSC, tout ça. Finalement, en bout de route, ce qui a été obtenu, on le voit là, c'est un réseau qui n'est pas gratuit, mais qui n'est vraiment pas dispendieux, qui permet aux femmes en particulier de participer au marché du travail et de ne pas rester à l'inverse à la maison, dans la mesure où, par exemple, il y a deux, trois enfants dans une famille qui s'en vont à la garderie privée. Si on a, ça coûte cher, 130 $ net par semaine par enfant. Si on a un revenu de 30 000 $ par exemple, 35 000, parfois on va prendre la décision que la femme ou l'homme reste à la maison, en tout cas un des deux, pour garder les enfants plutôt que d'y aller. Mais c'est un investissement de la part de la société québécoise pour le développement de la société québécoise, pour l'augmentation du taux d'activité des femmes sur le marché du travail. Mais c'est la même chose, l'investissement de l'État dans l'université. C'est un investissement et si... Bon, si on augmentait les frais de scolarité des services de garde, disons, on pourrait prendre le même raisonnement, on pourrait monter ça à 15 puis 20 $. Est-ce que ce serait bien? Les gens contribueraient davantage à ces services de garde? Pas nécessairement. Parce que ça peut-être que ça aurait un effet sur le taux de participation, en particulier des femmes sur le marché du travail. Et aussi, ça rendrait les choses plus difficiles aussi pour les familles pour faire en sorte que les enfants aillent dans les services de garde en espérant qu'ils soient de qualité. Mais si je vois le même problème par rapport aux frais de scolarité, le danger d'augmenter sensiblement, comme c'est plus que sensiblement actuellement, là, les frais de scolarité, c'est que ça touche au taux de diplomation. Dans les années 60, 5-6 % seulement des étudiants au Québec allaient à l'université via les collèges classiques privés. C'était rentable, ça, les collèges classiques. Oui, mais c'était fermé aussi. Peu d'étudiants avaient accès à l'université. Lorsque les cégeps ont ouvert, bon, là, ça a été un taux de participation de 20 % et maintenant, on a quelque chose comme plus de 30 % des gens qui vont à l'université bon, pour des baccalauréats, des maîtrises, des doctorats ou même des certificats, etc. Mais même là, lorsqu'on regarde les taux, les progrès faits par le Québec depuis les années 60, là, on est encore 2-3 % en bas de l'Ontario, 2-3 % en bas de la Colombie-Britannique. Et le danger d'augmenter trop sensiblement les taux, c'est particulièrement chez les familles défavorisées, où la motivation des étudiants est plus faible, où les obstacles multiples économiques dans les familles contribuent à freiner l'entrée de ces jeunes dans les universités, c'est que ça joue comme une barrière supplémentaire. Le danger est réel. J'ai fait ma carrière, moi, au niveau collégial, j'étais coordonnateur de département. Le taux de rétention là, en sciences humaines, je pense, par exemple, le domaine qui est le mien, on perdait 50 % des étudiants de la première à la deuxième année parce que le manque de motivation, le bagage socioculturel, les obstacles de toute nature, si on en ajoute davantage, on risque de miner ce taux de rétention au collégial jusqu'à la fin et le taux d'entrée des étudiants aussi à l'université. C'est ça qui est le danger principal. C'est pas le fait que les étudiants contribuent. La gratuité, bon, on pourrait, il y a la même chose. Les étudiants demandaient la gratuité dans les années 60, puis on est en 2012, il n'y a pas de gratuité. On peut toujours dire qu'on est pour ça, mais je pense que c'est pas ça qui est en cause actuellement. C'est de faire en sorte, à la limite, pour avoir une petite augmentation graduelle, mais une augmentation comme on la voit là.
Je sens que nos étudiants veulent réagir, mais je voudrais savoir simplement, moi je les trouve pas mal informés, pas mal articulés. Comment vous, par rapport aux autres mouvements, aux autres étudiants des autres mouvements, est-ce que vous trouvez que les étudiants qui sont dans la rue actuellement sont vraiment au fait de l'information, bien informés?
Tout à fait, comme en 2005. Je trouve que les porte-paroles se défendent particulièrement bien. La classe, la FEUC, la FEC, je suis sûr qu'il y a des choses sur lesquelles je trouve qu'il y a peut-être des carences ou des faiblesses, là, mais dans l'ensemble, je trouve que l'argumentation est assez solide.
Là. Vous allez vouloir réagir, mais je vais quand même vous poser ma dernière question. Ça va vous laisser une porte pour réagir un petit peu à ce qui s'est dit. La hausse touchera surtout les étudiants secondaires, finalement, parce que là, ça commence maintenant, mais dans les prochaines années, peut-être que vous allez être moins là, vous allez avoir terminé. Alors, qu'est-ce que vous leur dites aux étudiants du secondaire par rapport à vos convictions et par rapport au débat?
Moi, essentiellement, mon point, c'est que l'éducation, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça valait la peine avant la hausse, ça vaut la peine après la hausse. Puis ça vaut la peine à peu près de manière indépendante du coût. J'aimerais, par exemple, citer un tableau qui est disponible dans le même document, qui est souvent cité par rapport à 7000 étudiants qui vont perdre l'accès, qui dit que, par exemple, dans les tranches d'âge de 25 à 34 ans, qui est à peu près les tranches d'âge d'étudiants qui peuvent aller à l'université, la proportion de diplômes aux États-Unis, c'est de 30 %. Au Danemark, c'est de 27 %. En Australie, c'est de 27 %. Au Canada et au Québec, c'est aussi de 27 %. Au Royaume-Uni, j'ai 23, France, 22, et la moyenne de l'OCDE, 24. Fait que ici, on a des sociétés totalement différentes. Il y en a aux États-Unis que les frais sont très élevés. Il y en a au Danemark, c'est la gratuité scolaire. Et on a essentiellement le même taux de diplomation. Peu importe le prix, c'est que les sociétés, d'une certaine manière, sont capables de se réarranger. Et puis, la chose qui différencie le cas actuel des garderies qui ont été citées un peu plus tôt, c'est l'aide financière aux études. Parce que dans le fond, ce que j'aimerais apporter, c'est que ou bien on peut décider d'aider l'ensemble des étudiants par la massue en essayant de baisser le coût total des études pour tout le monde, ou bien on décide d'intervenir de manière ciblée chez les clientèles qui sont le plus touchées par la hausse. On peut décider, par exemple, que c'est peut-être pas le coût rendu à l'université qui est le plus important. Peut-être que c'est en aidant les étudiants du secondaire d'aller au cégep, puis les étudiants du cégep de se rendre à l'université, en mettant l'argent plus tôt, c'est peut-être la meilleure manière d'augmenter l'accessibilité. De dire qu'on veut absolument que les fonds soient mis à la porte d'entrée à l'université, ce n'est probablement pas, puis en fait, il y a des études qui le montrent aussi, la meilleure méthode d'intervenir si le but, c'est vraiment l'accès à l'éducation.
Ouais, parce que je dirais aux étudiants du secondaire, c'est que ben si présentement on est en grève, c'est justement pour que ils et elles puissent avoir accès à l'université, mais c'est aussi une question de solidarité dans le fond. Faut pas voir la hausse des frais de scolarité comme un enjeu individuel, mais plutôt comme un enjeu collectif. Et faut dans le fond c'est ça aussi la façon, tu sais, quand je parle de la façon dont est financé dont sont financées les universités, dont sont gérées les universités, dans le fond c'est que moi, ça me préoccupe vraiment beaucoup comment ce qui se passe dans l'université, ça va au-delà de simplement mon diplôme. Je pense que c'est justement important de parler de justement des frais de scolarité d'une part, mais aussi de ce qui se passe dans l'université, dire qu'on veut un savoir qui soit libre et qui soit public. Sinon aussi, ben quand on parle de... Je reviens un peu sur ce que mon collègue a dit par rapport au taux de diplomation. C'est bien des taux de diplomation élevés, mais il faut savoir aussi plusieurs choses. Donc, quelle frange de la population a accès à ces diplômes-là? Quelle frange de la population a accès aux études supérieures? Tu sais, c'est même beau parler d'un pourcentage de la population, mais c'est qui? Tu sais, est-ce que c'est les gens qui viennent de familles plus fortunées? Parce que si c'est seulement les personnes qui viennent de familles plus fortunées, ce qui est souvent le cas, ben c'est après les hausses de frais de scolarité en particulier, là, c'est problématique. T'sais. Puis quand on parle aussi, sinon, de l'aide financière aux études, ben faut prendre en considération que c'est à peu près seulement 30 % de la population étudiante qui a accès et que ça reste de l'endettement. Donc, c'est quand même un facteur qui est dissuasif de dire, les frais de scolarité vont être très élevés, mais on va te passer de l'argent, mais ça reste une forme d'endettement. Pour en échange avoir, tu sais, puis de monter les frais de scolarité, ça introduit la vision comme quoi on paye plus pour avoir un papier qui est un diplôme et non pour avoir accès au savoir. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi rappeler que le savoir se doit d'être libre et pas seulement de voir l'université comme une machine à diplômer.
Malheureusement, c'est un petit peu tout le temps qu'on avait aujourd'hui. On vous réinvitera, on en refera une autre pour de toute façon, là pour l'instant le mouvement est bien amorcé, puis tout le mois de mars ça va continuer. Je vous remercie.
Un plaisir.